Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Le Sénat vient d'adopter en première lecture à la quasi-unanimité le projet de loi Création et Internet présenté le 18 juin dernier au Conseil des ministres par Madame Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication. Ce vote intervient à peu près un an après la signature de ce que l'on appelle les accords de l'Élysée du 23 novembre 2007, un accord signé par 50 professionnels de la culture et d'Internet à la suite de la mission qui a été confiée à M. Denis Oliven. Pour évoquer ce projet de loi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Canal Académie M. Michel Thiolière, sénateur de la Loire, vice-président de la Commission des affaires culturelles du Sénat, dont il est rapporteur pour ce projet de loi, et donc auteur d'un rapport intitulé « Diffusion et protection de la création sur Internet ». Monsieur le sénateur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Comme vous le savez, notre radio consacre une série d'émissions au rapport du Sénat, et nous avons eu le plaisir d'accueillir déjà dans notre studio votre président, le président de la Commission des affaires culturelles, M. Jacques Legendre, ainsi que Mme Catherine Dumas, sénatrice de Paris, membre également de la Commission des affaires culturelles, et M. Christian Gaudin, sénateur de Maine-et-Loire. Votre rapport dresse un état des lieux très complet du piratage sur Internet en France et à l'étranger. Il explique aussi la nécessité d'une nouvelle loi. Il propose à la Commission des affaires culturelles du Sénat d'approuver ce texte de loi, toutefois en le complétant par 50 amendements. Ce rapport marque une nouvelle étape dans la concertation menée avec les professionnels, puisque vous avez entendu, je crois, plus de 120 personnes au cours des 60 auditions que vous avez organisées. Monsieur le sénateur, je voulais vous demander, le piratage sur Internet, est-ce vraiment une menace pour la création? Pouvez-vous nous en donner les conséquences et nous dire son impact?
D'abord, merci de m'accueillir pour parler effectivement de ce sujet dans un établissement aussi prestigieux que l'Institut et où justement enfin, on diffuse la culture française et on protège les créateurs et on s'efforce de faire rayonner notre culture française à l'étranger. Alors effectivement, nous sommes dans une situation aujourd'hui où on peut dire qu'Internet a envahi notre vie quotidienne et c'est une chance pour tous ceux qui peuvent y avoir accès. Il y a à peu près un terrien sur quatre qui a accès aujourd'hui à Internet, c'est-à-dire la diffusion rapide de ce mode de communication et d'information. Mais dans le même temps, comme toujours, quand il y a diffusion d'une nouvelle technologie, il y a des effets très positifs et puis il y a parfois quelques effets pervers. Et un des effets pervers, ça a été le piratage, puisque le monde de la création n'a pas pu ou n'a pas su se prémunir à temps des effets pervers d'Internet, qui offre encore une fois une sorte de bibliothèque mondiale, universelle, mais qui en même temps permet aux pirates d'aller piller des œuvres. Et donc c'est la raison pour laquelle il fallait réagir, de manière à ce que Internet et la création soient deux mondes compatibles et qu'on puisse réconcilier, en tout cas c'est comme ça que je l'expliquais au Sénat, l'internaute et le créateur, l'un et l'autre, devant respecter à la fois la liberté de chacun, mais aussi les droits qui sont liés à l'usage d'Internet, mais aussi à la création et à sa protection.
Quels sont donc les objectifs et les enjeux de ce projet de loi?
Alors, c'est très simple. Il y a deux volets, on peut dire, pour simplifier les choses. Le premier volet, c'est de faire en sorte que l'offre légale soit la plus large possible, c'est-à-dire qu'on puisse trouver sur Internet à la fois des catalogues de musique, des catalogues de cinéma, dans, je dirais, des conditions faciles techniquement, très larges en termes de catalogue, et donc qu'on puisse y trouver toutes les œuvres possibles, et puis qu'on puisse bien sûr aller sur ces sites et qu'on puisse télécharger dans de bonnes conditions, y compris économiquement, de manière à ce qu'on puisse rémunérer ceux qui sont les créateurs et toute l'économie de la création, mais en le faisant de façon légale. Et puis le deuxième aspect, c'est que si, je dirais, le premier volet marche, il faut qu'on puisse éventuellement faire des recommandations, voire appliquer des sanctions à ceux qui continueraient dans l'avenir à pirater et donc à voler la création et donc à voler le travail de ceux qui travaillent dans ces domaines-là. Il faut savoir par exemple qu'en France, nous avons 2,4% de la population qui travaille dans les industries de la création, le monde du cinéma ou de la musique ou des logiciels ou des jeux vidéo. Et donc, c'est une population qui est très inquiète aujourd'hui par rapport à son avenir quand elle voit avec quelle vitesse le piratage a, je dirais, abîmé et même, je dirais, traumatisé ce secteur-là de la création. Donc, la loi, elle a deux volets. Encore une fois, proposer des œuvres de plus en plus nombreuses dans un cadre légal et en même temps mettre en place des sanctions si besoin est.
Alors, quelle est la démarche adoptée en termes de sanctions ou de prévention ? Parce que ce texte de loi propose, je crois, une démarche préventive.
Alors, nous avons beaucoup, beaucoup travaillé au Sénat sur cet aspect-là des choses. Vous avez raison, il faut faire de la pédagogie. Tout simplement parce qu'on est dans un monde qui est encore celui, je dirais, du piratage généralisé, qui n'est pas traité aujourd'hui, parce que les internautes qui vont pirater, qui vont télécharger illégalement, savent bien quelque part que ça ne devrait pas se faire, mais puisque tout le monde le fait, on le fait. Bon, et la pratique, c'est généralisé. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie, donc dès l'école, pour expliquer le bien fondé du droit d'auteur aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, pour leur montrer que la création, et donc si on veut poursuivre notre travail, nous Français, de création dans des domaines comme le cinéma ou la musique ou même le livre, et donc la littérature, il faut qu'on puisse protéger cette création. Et rien ne dit que la source ne se tarit pas si on n'applique pas assez rapidement des méthodes d'un bon usage d'Internet. Ensuite, si nous favorisons l'offre légale, ça veut dire qu'il y aura, quand on ouvrira son abonnement, des possibilités nouvelles d'aller télécharger légalement la musique, du cinéma ou des jeux vidéo, le cas échéant. Et là, c'est donc tout l'aspect proposition et donc l'aspect pédagogique. Si jamais vous continuez à télécharger illégalement, et donc si vous continuez à pirater des œuvres, à ce moment-là, la haute autorité qui sera mise en place pourra vous envoyer une première recommandation en vous rappelant que tel jour à telle heure, vous avez téléchargé illégalement une œuvre et qu'il ne faut pas continuer parce que ça nuit à la création, au droit d'auteur, et donc à vous inciter à vous rabattre vers des
offres légales. C'est en quelque sorte un avertissement.
C'est un avertissement sans frais. Voilà, c'est un peu l'équivalent du panneau de signalisation sur la route qui vous indique de ne pas dépasser une vitesse. Bon, si vous la dépassez, bah vous entrez dans une nouvelle phase, bien informé et continuant à télécharger légalement. À ce moment-là, vous pouvez recevoir une lettre recommandée qui vous expliquera que vous n'avez pas appliqué la première recommandation. Et donc maintenant, il faudrait quand même penser à arrêter. Voilà.
C'est la phase 2.
C'est la phase 2. Et puis si jamais vous persistez et si vous persistez dans l'erreur, et donc si vous continuez à télécharger légalement, peut arriver à ce moment-là la sanction ultime qui est la suspension de votre abonnement à Internet. Voilà, résumer un petit peu le processus en trois étapes, de la recommandation jusqu'à la sanction, mais tout ceci étant préparé en amont et donc étant précédé d'une pédagogie, d'une offre plus importante, de manière à montrer qu'il y a d'autres solutions que le piratage si l'on veut profiter des œuvres qui, aujourd'hui, sont à notre disposition sur Internet.
Suspension d'Internet, cela peut avoir des conséquences graves. D'abord, quelle est la durée de cette suspension ? Et est-ce qu'il y a des possibilités peut-être de négocier avant suspension ou de...
Oui, alors tout est fait en tout cas pour que ce soit la pédagogie qui l'emporte. En toute occasion, il ne s'agit pas uniquement de mettre des gendarmes sur Internet, comme cela a été parfois dit. Il s'agit plutôt de faire de la pédagogie. Et donc, chaque fois qu'un abonné aura l'occasion de recevoir une recommandation, voire une lettre recommandée, il pourra toujours aller sur des sites légaux pour basculer d'un monde, qui est celui du piratage, à un monde légal. Si jamais on va plus loin, et on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 60% de la population concernée qui s'arrête à la première recommandation, qui va sur des pratiques légales. Au niveau de la deuxième étape, donc de la lettre recommandée, c'est 90% de la population qui s'arrête. Alors on connaît ces chiffres parce que d'autres pays européens ont déjà pratiqué cette méthode-là. Et les Américains l'ont déjà fait également depuis plus longtemps que nous encore. Et puis si on arrive à la troisième étape, là, la haute autorité aura la possibilité soit de suspendre votre abonnement, mais uniquement l'abonnement Internet et pas la téléphonie ou la télévision, lorsqu'il s'agit d'un abonnement groupé, ce qui se fait maintenant en ce qu'on appelle le triple play. Voilà. Alors, il faut nous pardonner parce qu'il y a beaucoup de termes anglais, mais on parle beaucoup anglais dans ce monde des fournisseurs d'accès. Donc, cette offre groupée peut être divisée pour ne suspendre que l'abonnement qui peut aller jusqu'à un an éventuellement de suspension. Et là, c'est la haute autorité qui verra en fonction des fautes commises, en fonction de la gravité des fautes, ce qu'elle peut faire. Mais il y a aussi la transaction possible. C'est-à-dire que pour une collectivité, pour une personne morale, pour quelqu'un qui a besoin d'Internet pour son travail, la haute autorité pourra proposer une transaction de manière à ce que là aussi soit la pédagogie qui l'emporte. Prenons un exemple très concret. Si dans une bibliothèque, médiathèque municipale, vous avez eu un téléchargement illégal, on ne va pas suspendre l'abonnement Internet de la bibliothèque ou de la médiathèque. Donc ce qui se passera, c'est que la haute autorité vous demandera à la collectivité, de prendre des mesures pour identifier ceux qui piraterait parmi ses abonnés et d'avoir une sorte de mise en place d'un code de bonne conduite, voire de contrôle d'Internet de manière à ce qu'on ne puisse pas télécharger depuis un poste qui est un poste public pour éviter des inconvénients qui ne concernent pas la totalité de la population, loin s'en faut.
Que se passe-t-il en cas de force majeure ou d'utilisation frauduleuse ? Imaginons qu'au sein d'une famille, quelqu'un s'introduit pendant une soirée organisée par un enfant et télécharge.
Alors d'abord, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que je dirais la bonne foi vous profitera toujours. Bon, c'est-à-dire que si vous pouvez faire la preuve que vous avez mis en place un moyen de sécurisation d'Internet, comme cela se fait aujourd'hui avec le contrôle parental, par exemple. Donc il y a des logiciels qui permettent et qui permettront de plus en plus de sécuriser votre accès à Internet. Si vous avez pris cette précaution, il est évident que vous ne serez pas concerné et vous pourrez montrer que vous êtes de bonne foi. Si votre Internet, votre abonnement est piraté à son tour, ce qui peut se passer avec le Wi-Fi, avec les nouvelles formules, et puis on sait bien que, comme cela peut se passer pour une voiture qui peut être volée, on peut aussi, d'une certaine manière, vous voler votre abonnement. Donc à ce moment-là, c'est toujours la bonne foi qui l'emporte et il ne s'agit pas, pour la haute autorité, de s'abattre sur vous sans précaution. Donc tout ceci est parfaitement clair et a été parfaitement discuté, notamment au Sénat, par le travail qu'a fait notre commission des affaires culturelles.
Vous avez évoqué les pays étrangers. Effectivement, la France n'est pas seule concernée par le piratage sur Internet. J'ai envie de vous demander, est-ce que le phénomène dans notre pays est plus développé qu'ailleurs ou pas ? Et qu'en est-il aux États-Unis ? Et qu'en est-il dans les autres pays européens proches du nôtre ?
Alors, la France est championne du monde. Donc, dans ce domaine du piratage, nous avons le chiffre qui est donné habituellement, c'est 1 milliard de téléchargements illégaux par an. C'est considérable. C'est un pillage de nos œuvres culturelles assez phénoménal, mais qui est dû au fait que la France s'est équipée très vite en haut débit, ce qui permet de télécharger très facilement. Et puis sans doute aussi, et ça c'est plutôt une chance et c'est à souligner avec intérêt, que les Français aiment le cinéma, aiment la musique et donc...
Aiment la culture.
Et donc là, c'est la rançon du succès en quelque sorte. Donc les deux phénomènes conjugués font de nous les champions du monde du piratage. Ceci étant, ça concerne tous les pays qui ont une offre culturelle importante, et tous les pays qui sont équipés dans de bonnes conditions à Internet. Alors, les Américains ont été les premiers touchés, si je peux dire, et ont mis en place des sanctions qui sont très lourdes et qui sont beaucoup plus lourdes que celles que nous proposons en France. Le résultat a été que l'offre légale s'est bien développée. Et l'autre jour, le directeur d'un label indépendant, donc d'un petit label musical, entre guillemets, expliquait qu'il ne va pas pouvoir, lui, continuer à travailler en France si ça continue comme ça, parce que l'offre légale ne représente que 4% de l'offre proposée sur Internet, le reste étant piraté. Alors qu'aux États-Unis, on est déjà à 20% d'offres légales. Ça veut dire qu'on est en train de basculer du bon côté. Alors nous, c'est ce qu'il faut rechercher, c'est faire basculer du bon côté. Alors les Britanniques ont initié, avant l'été, donc au mois de juin-juillet, des pratiques très proches des nôtres. C'est-à-dire que les partenaires privés se sont mis d'accord et déjà, ils ont, à titre expérimental, depuis le mois de juillet, envoyé des lettres de l'équivalent de nos fournisseurs d'accès à nous aux pirates, et donc de manière à leur expliquer que ça n'était pas ce qu'il fallait faire et qu'il fallait se rabattre sur des sites légaux. Donc,
est-ce que c'est efficace ?
C'est efficace, oui, parce que c'est comme ça qu'on a les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure. C'est efficace, c'est-à-dire que dès que les gens reçoivent une première lettre ou une première recommandation, ils comprennent que, je dirais qu'il faut à la fois respecter la création, mais que c'est aussi leur intérêt de le faire, sinon ben, il y aura des sanctions. Donc c'est efficace à 90%, voire 95% dès l'envoi et donc dès la réception d'un message recommandé, d'une lettre qu'on reçoit à son domicile.
Et dans les autres pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne?
Alors, ils sont tous concernés comme nous. Et comme on est en période de présidence française de l'Union européenne, Mme Albanel et les différents ministres de la Culture se sont penchés sur le problème au mois de juillet. Il y a une nouvelle réunion des ministres européens bientôt. Et ce que nous faisons en France est observé très près par tous les autres pays, et notamment les plus proches qui ont, comme nous, une création importante et qui ont un développement d'Internet important aussi. Alors, comme c'est un principe qui est basé sur la concertation, vous avez rappelé tout à l'heure le processus, c'est-à-dire qu'il y a eu une longue évolution du processus depuis la décision par le président de la République de confier une mission à Denis Oliven, qui a réussi, lui, après une sorte de consensus autour des professionnels. Ça a donné lieu aux accords de l'Élysée, un projet de loi suivi présenté par Mme Albanel. Nous en avons discuté au Sénat, nous avons approuvé la loi amendée. Elle va passer maintenant à l'Assemblée nationale. Donc c'est un processus qui est très empreint de concertation et qui fait une large place au dialogue. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ça va marcher. Parce que dans la société moderne, dans la société d'aujourd'hui, je crois qu'il faut, pour que les lois soient appliquées et applicables, qu'elles soient d'abord bien comprises. Et pour qu'elles soient comprises, il faut qu'il y ait un temps de dialogue, de concertation et d'information. Alors on l'a vu sur le Grenelle de l'environnement, où il y a eu un très large consensus à l'Assemblée nationale, et on l'a vu au Sénat, où il y a eu là aussi un très large consensus sur ce texte.
Cette démarche française pourrait donc faire école en Europe.
Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que d'abord, je suis convaincu que l'Europe n'existera pas sans une véritable identité culturelle européenne, ce qui veut dire que chacun de nos pays européens doit protéger, défendre, promouvoir sa création, et que ce sont les créations européennes, les créations nationales qui fonderont en quelque sorte une création européenne. Et nous sommes de ce point de vue-là, je dirais nous Européens de manière générale, nous sommes quand même très riches d'une culture et d'une histoire extraordinaires. Et ça n'est pas parce qu'il y a la mondialisation, ça n'est pas parce qu'il y a Internet qu'il faut sacrifier en quelques mois ce qu'on a mis des siècles à construire ou à bâtir. Et donc il faut qu'on ait à la fois le souci de la modernité, mais aussi le souci de la préservation de notre richesse. On se battra bien contre les marchés émergents d'Asie ou contre les marchés américains que si on a une culture forte, une créativité forte. Et donc ça mérite qu'on la défende. Et c'est la raison pour laquelle ce texte est aussi fondateur d'une nouvelle façon d'appréhender Internet et de concilier les impératifs de création et d'ouverture au monde. Je crois que c'est comme ça qu'on essaiera de protéger notre création tout en avançant et tout en étant parfaitement en phase avec le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Pensez-vous que l'on puisse aller vers une régulation européenne, notamment à l'occasion de la présidence française ?
Je pense en tout cas que la période qu'on est en train de vivre, en termes de discussion de cette loi française, va donner des idées à d'autres. C'est probable, des échos qu'on a. J'ai interrogé pendant le travail que nous avons fait au Sénat de nombreux pays étrangers, notamment de nombreux pays européens. Tout ce que j'ai reçu en retour est très positif, c'est-à-dire que tout le monde est concerné par le problème, tout le monde est préoccupé de savoir comment réagir face au piratage, et tout le monde regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui est en train de se passer en France. Alors nous sommes pionniers, tant mieux, et donc ça veut dire que si la loi française est adoptée et si elle est mise en pratique en 2009 dans de bonnes conditions, je suis sûr qu'on sera suivi, et ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura peut-être une directive un jour de niveau européen qui viendra, je dirais, officialiser tout ça sur une large échelle européenne. Alors, je veux dire également que les Japonais sont concernés et ont également, eux, mis en place des moyens de promotion de l'offre légale. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème planétaire aujourd'hui.
Oui, puisqu'Internet est mondial.
Est mondial, voilà. Ça, encore une fois, c'est une vraie chance, mais ça a surpris par l'ampleur et par la vitesse avec laquelle ça s'est développé, ce qui fait que les professionnels français de la musique, du cinéma, n'ont peut-être pas eu le temps de réagir ou n'ont pas su comment réagir à cette vague déferlante d'Internet.
Et comment les internautes réagissent-ils à ce projet de loi ? Il y a eu, il semble-t-il, ici ou là, quelques contestations, quelques craintes exprimées. L'idée que l'autorité créée pourrait être un big brother de l'Internet, qu'il y avait des risques pour la protection de la vie privée des internautes. Pensez-vous, en fait, qu'on ait atteint la maturité suffisante pour...
Il me semble qu'on a atteint un bon degré de réflexion collective sur le sujet. On a fait beaucoup de progrès depuis 2 ou 3 ans, depuis la précédente loi droit d'auteur. Je pense que la société s'est sentie concernée par le sujet. Un peu comme l'est une société quand elle accepte des changements importants. On l'a vu avec la sécurité routière. On l'a vu avec la santé publique, notamment avec le tabac. C'est des choses qui paraissent incommensurables et donc difficiles à réaliser, se font finalement quand il y a une conscience collective qui s'opère, parce que les gens pensent que finalement c'est normal que l'on paye ce qui a été travaillé, ce qui a été créé par des gens qui peuvent être nos propres enfants, nos propres voisins. Ce que je disais l'autre jour à une personne qui m'interrogeait et qui me disait « Mais en fait, comment je pourrais expliquer à mes enfants qu'il faut arrêter de pirater ?» Eh bien, je disais, il y a beaucoup de raisons pour arrêter de pirater. D'abord parce que le vol est quand même puni par la loi depuis toujours et qu'on n'a pas à voler. Et puis, il y a peut-être une autre raison que vous pouvez leur expliquer, c'est qu'eux-mêmes travailleront peut-être demain dans les métiers de la création. Ils ne seront peut-être pas tous prix Nobel de littérature ou cinéastes primés à Cannes, mais ils seront peut-être dans des industries de la création, dans l'industrie du livre, dans l'industrie du cinéma ou de la vidéo ou des jeux vidéo. Et c'est aussi leur travail de demain qu'ils sont en train de protéger s'ils acceptent de payer ce qu'ils téléchargent sur Internet.
Merci pour cette leçon de pédagogie. Je vous propose de marquer une courte pause et de nous retrouver dans quelques instants sur l'antenne de Canal Academy.
Mireille Delmas-Marty, professeure de droit international au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, se dévoile au cours de notre émission en habit vert. Elle nous livre les détails de sa carrière de chercheur, expert auprès de plusieurs ministères et de l'Union européenne. Mireille Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, une émission à télécharger librement sur Canal Academy.
Nous sommes sur les ondes de Canal Academy où nous accueillons aujourd'hui M. Michel Thiolière, sénateur de la Loire, vice-président de la Commission des affaires culturelles du Sénat, auteur d'un rapport diffusion et protection de la création sur Internet, avec lequel donc nous évoquons le projet de loi création et Internet qui vient d'être adopté par le Sénat en première lecture à la quasi-unanimité. Monsieur le sénateur, la Commission des affaires culturelles du Sénat, dont vous êtes le rapporteur pour ce texte de loi, a adopté le projet du gouvernement proposé par Madame Albanel et a adopté aussi les 50 amendements que vous proposez dans votre rapport. Pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de ces amendements ? Pourquoi ces amendements ?
Alors, vous avez raison de dire que j'ai souhaité que notre commission des affaires culturelles dépose des amendements au nom de la commission. Et je me réjouis, comme vous le disiez, qu'ils étaient adoptés par la quasi-unanimité des collègues sénateurs, ce qui veut bien dire qu'il y a un consensus sur ce sujet-là qu'on a pu dégager au Sénat. Alors, la première motivation de ces amendements, c'est d'abord de renforcer tout l'aspect pédagogique du projet de loi et donc de la future loi, de manière à ce que cette loi soit, je dirais, vraiment l'occasion d'informer l'opinion publique et donc d'informer les internautes sur les dangers qu'il y a à pirater et donc à priver les auteurs de leurs droits, mais en même temps aussi sur l'offre légale qui se développe. Donc là, beaucoup d'amendements visent à améliorer la pédagogie. Deuxième volet de ces amendements, c'était de sécuriser au maximum l'autorité administrative, donc la haute autorité qui sera mise en place, pour, à la fois voir ce qui se passe en termes d'évolution de la création sur Internet, mais aussi, éventuellement, avec la commission des magistrats, donc d'appliquer les sanctions. Donc, de façon à ce que la vie privée de nos concitoyens, la liberté de nos concitoyens soit parfaitement protégée. Et puis, nous avons également amendé le texte de manière à ce que les sanctions, si sanctions il y a, soit, adaptées et donc qu'elles soient, d'une certaine manière, proportionnelles au cas constaté.
Bon nombre de ces amendements concernent la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, qui est le nom de la Haute Autorité créée, HADOPI. C'est une nouvelle autorité administrative indépendante, que l'on appelle une AAI, donc qui est créée par l'article 2 du projet de loi et qui doit se substituer à l'actuelle autorité de régulation des mesures techniques qui a été, je crois, créée en 2006.
Absolument.
Et notamment à l'initiative du Sénat.
Tout à fait, exactement. C'est ce que nous avions souhaité à l'époque.
Je voulais vous demander, donc, quelles seront les missions de cette haute autorité, sa composition, ses moyens, qui pourra la saisir ? Et pouvez-vous aussi nous dire quelles sont les garanties de son indépendance et de son efficacité auxquelles, je crois, par vos amendements, vous avez contribué ?
La haute autorité, effectivement, prend la suite de l'autorité de régulation des mesures techniques. elle la développe, elle lui donne plus de substance en quelque sorte et donc plus de moyens. D'abord par un collège qui sera le collège de la haute autorité, dans lequel se retrouveront à la fois des professionnels qui seront désignés pour leurs compétences dans ces domaines d'Internet et du droit sur Internet et du droit de la création, de manière à ce qu'on puisse à la fois saisir la haute autorité, donc ce collège, de manière à, par exemple, demander, c'est un petit peu la technique, là, par exemple, l'abandon de DRM sur les œuvres qui sont des sortes de verrous que l'on peut mettre sur les œuvres. Donc, ça favorise l'interopérabilité. Le collège pourra également donner des appréciations sur l'évolution des technologies, sur l'évolution du piratage, le cas échéant. Enfin bref, c'est une autorité indépendante qui sera là, comme le CSA le fait pour la télévision, de manière à avoir du recul par rapport à ce qui est en train de se passer dans ce monde d'Internet et de la création. Et puis, il y a une partie plus qui ressemble à une juridiction, c'est la commission de 3 magistrats. Et effectivement, nous avons renforcé le caractère étanche, entre guillemets, de cette commission, de manière à ce que cette commission qui sera saisie par les sociétés d'auteurs d'actes de piratage constatés puissent mettre en œuvre la réponse graduée qu'on expliquait tout à l'heure, à savoir la recommandation, la lettre recommandée et en définitive éventuellement la sanction par le biais de la suspension de l'abonnement. Donc cette haute autorité, elle est, comme son nom l'indique, indépendante. On a renforcé toutes les garanties vis-à-vis des internautes et donc vis-à-vis des abonnés, de manière à ce qu'elle soit parfaitement étanche. Madame Albanel parlait d'une boîte noire. Effectivement, donc rien de ce que fait cette commission ne sera livré à l'opinion publique, notamment en termes de données personnelles. Alors, comment ça va se passer concrètement ? Eh bien, imaginons qu'une société d'auteurs s'aperçoive que les œuvres qu'elle protège sont piratées. Elle donnera à la haute autorité le jour, l'heure et le numéro de l'abonnement. Donc ce qu'on appelle l'adresse IP dans le jargon d'Internet. Et la haute autorité aura ces données-là, mais c'est elle qui vérifiera à ce moment-là qui est l'abonné, c'est-à-dire le nom et l'adresse de l'abonné, de manière à lui envoyer un message de recommandation. Mais la société d'auteur qui aura fait la démarche ne connaîtra pas à ce moment-là à qui s'adresse cette recommandation. Donc seule la commission de la haute autorité et l'abonné, bien entendu, auront connaissance de cette recommandation. Ensuite, si ça va plus loin, s'il y a récidive, récidive et donc acte de piratage avéré dans le temps, à ce moment-là, l'autorité pourra, elle aussi, à ce moment-là, envoyer donc une lettre recommandée, voire demander la suspension de l'abonnement à Internet. Et si vous êtes partie de ceux dont l'abonnement a été suspendu, vous figurez sur un répertoire, mais là aussi avec beaucoup de précautions qui ont été prises, et si vous allez redemander un abonnement à votre fournisseur d'accès préféré, lui pourra consulter ce répertoire, mais il n'aura pas de données autres que oui, vous êtes sur le répertoire ou non, vous n'y êtes pas. Donc si vous allez dans une boutique de fournisseurs d'accès, ils feront un contrat, ils demanderont à la haute autorité si vous êtes ou non sur le fichier, ils n'auront pas d'autres données. C'est-à-dire qu'en aval comme en amont, si je peux dire, du passage à la haute autorité, tout est parfaitement étanche de manière à ce qu'aucune donnée personnelle et aucune liberté soit bien sûr remise en question. Ceci étant, j'ai même demandé, est-ce que le Sénat refuse un amendement qui était proposé plusieurs amendements qui étaient proposés qui visaient à donner le nom de l'œuvre téléchargée illégalement. Et je pensais qu'il était plus sage de ne pas le faire pour éviter soit des débats au sein de la famille, soit éventuellement des débats également sur les lieux de travail ou dans les collectivités où il y a l'usage d'Internet. Donc la seule chose connue seront les données, strictes de l'heure et du jour du téléchargement illégal.
Et l'adresse de l'internaute.
Et l'adresse de l'internaute, mais alors c'est ce qu'on appelle l'adresse IP, c'est l'équivalent de la plaque d'immatriculation, si vous voulez. Imaginons qu'on est sur la route, ça veut dire que quand vous avez un flash pour excès de vitesse, c'est votre plaque d'immatriculation qui est concernée et donc on vous envoie l'amende en fonction de la plaque d'immatriculation. Là, ce sera un peu la même chose, c'est-à-dire que l'adresse IP, c'est votre adresse d'abonné, c'est votre numéro d'abonné et c'est à votre adresse d'abonné que sera envoyée la recommandation.
Et quels seront les moyens de l'ADEPI pour mener toutes ces actions
C'est très lourd, oui. D'abord, les sociétés d'auteurs elles-mêmes, auront à voir, un petit peu comme sur la route, là, sur Internet, qui fraude en quelque sorte. Mais encore une fois, les sociétés d'auteurs ne verront pas qui est derrière l'adresse IP, elles verront simplement l'adresse, donc le numéro d'abonné. Ensuite, la haute autorité, c'est qu'il prend de moyens effectivement importants, de manière à pouvoir adresser, comme le fait, je dirais, comme on le fait quand on reçoit, je dirais, une amende pour excès de vitesse parce qu'on a été flashé sur l'autoroute, là, aura des moyens qui permettront d'envoyer des messages, à la fois, bien sûr, sur Internet, par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès, ou bien des lettres recommandées si besoin.
Ces agents seront, je crois, assermentés.
Oui, alors c'est une autre protection que nous avons votée au Sénat. J'ai proposé un amendement pour que les agences ne soient pas simplement habilitées, mais assermentées, ce qui est une mesure, je dirais, de protection supplémentaire, que les membres de la haute autorité soient tenus au secret professionnel, qu'ils ne puissent pas cumuler des emplois avant ou après leur passage à la haute autorité qui seraient trop liés aux usages d'Internet et donc aux sujets concernés. Enfin bref, tous les amendements qui ont été adoptés par le Sénat visent vraiment à donner toute garantie à cette haute autorité, que cette haute autorité, je dirais, sera parfaitement étanche. Encore une fois, c'est le mot qui me paraît le plus approprié pour dire qu'elle travaillera de façon complètement indépendante.
Et la création de cette haute autorité est très caractéristique, je crois, de la démarche française, puisque dans les pays étrangers, il n'y a pas ce type d'organisation.
Vous avez raison. Vous avez raison. En Grande-Bretagne, il n'y a pas d'intervention de l'État aujourd'hui. Il y a sans doute une loi qui verra le jour, mais la démarche a été partenariale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, les fournisseurs d'accès et les sociétés d'auteurs se sont mises d'accord pour faire une démarche à la française, mais sans intervention de la loi. Alors, vous savez qu'en Grande-Bretagne, on n'est pas en France, par définition, et donc nous, Français, on a souvent besoin d'une loi pour mettre les choses en place. Et les partenaires français ont souhaité que les législateurs interviennent pour que les choses soient bien cadrées, ce qui est aussi une garantie pour nos concitoyens, c'est-à-dire qu'encore une fois, tout cela se fera dans le respect le plus strict des lois et bien sûr de la liberté et des données de vie privée. Ceci étant, bon, j'ai lu comme vous qu'il y a un certain nombre d'associations ou d'internautes, relativement peu nombreux quand même, se plaignent du fait que cette loi pourrait être liberticide. Bon, la première suppression de liberté, c'est quand même ce qu'ils opèrent à jet continu, à savoir la liberté de création et le droit et le respect du droit. C'est quand même, je ne veux pas, si on peut dire, renverser les choses. La première chose qui est apparue, c'est quand même la privation d'un droit et la privation d'une liberté de création. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui rétablir l'équilibre. Il s'agit aujourd'hui de remettre les deux plateaux de la balance de façon un petit peu plus égale et ne pas continuer à pervertir le système.
Parmi les amendements proposés, certains visent à renforcer la formation des internautes et à sensibiliser les enfants et les jeunes. À qui doivent incomber ces missions d'information et de pédagogie qui sont fondamentales dans cette loi ? Qu'on peut envisager par exemple une campagne nationale d'information, comme c'est le cas pour la sécurité routière ou le tabac ?
Bien sûr.
L'école va jouer un rôle. Enfin,
je dirais qu'il y a peut-être en premier lieu la famille, parce que c'est là où ça se passe, si je peux dire. Vous avez un abonnement Internet chez vous, votre famille dispose cet abonnement Internet, mais vous ne contrôlez pas forcément ce que font tous les membres de la famille tous les jours sur Internet, et notamment pas les enfants. Or, ce qui m'est apparu important et grave de conséquence, lorsqu'on a auditionné notamment les milieux qui rassemblent les familles ou qui sont préoccupés de la vie familiale, c'est qu'en fait, quand vous téléchargez aujourd'hui, de façon pirate, vous avez 40% de chances de tomber sur soit des films pornographiques, soit des films violents. Et si le film de l'année a été Bienvenue chez les Ch'tis, si vous allez sur un site pirate, vous avez 40% de chances de tomber, en demandant Bienvenue chez les Ch'tis, de tomber sur un film pornographique ou un film violent. Et je ne suis pas convaincu que les parents sachent tout à fait ça aujourd'hui. Donc il y a aussi à mettre en place une sorte de protection de la jeunesse et de l'enfance, et que permet la loi, parce qu'elle permettra de sécuriser son abonnement Internet, comme le font les parents lorsqu'ils ont, sur la télévision ou sur Internet, mis en place des contrôles parentaux. Je crois qu'il faut responsabiliser la famille sur les usages d'Internet. Vous savez, Internet, c'est fabuleux. Ça a un seul inconvénient, c'est que ça ne hiérarchise pas les valeurs et que tout arrive, je dirais, de façon très, très libre, mais sans précaution. Et donc, quand
on
est parent,
en vrac.
Voilà, en vrac. Et alors, soit on est averti soi-même et on fait le tri, et on hiérarchise les valeurs, soit on n'est pas averti, et on peut comprendre que de jeunes enfants ne soient pas avertis, parce qu'ils n'ont pas appris, et à ce moment-là, on est débordé par des informations, voire des messages qui sont graves de conséquences pour la vie d'un enfant. Donc c'est la raison pour laquelle il faut d'abord s'occuper je dirais, de la protection de la vie des enfants dans la famille. Et ce que nous avons fait au Sénat va dans ce sens-là. Bien sûr qu'il faudra que l'école s'en occupe aussi. On ne peut pas toujours tout demander à l'école et on ne peut pas lui demander notamment de se substituer aux parents. Et puis, il y a aussi toutes les précautions à prendre que peuvent mettre en place les professionnels. Et tant mieux s'il y a des grandes campagnes de promotion de l'offre légale que proposeront demain les producteurs de cinéma, les exploitants de cinéma ou les producteurs de musique qui ont effectivement un rôle important à jouer pour montrer que leurs catalogues sont disponibles sur des sites légaux.
Oui, je pensais aussi donc à des campagnes gouvernementales. Est-ce que c'est envisageable?
Bien sûr.
Des campagnes d'intérêt général, des campagnes visant à modifier les comportements, comme on en a connu donc pour le tabac, la sécurité.
Moi, je crois que c'est très important.
L'alcool.
Le gouvernement a été, je pense, assez impressionné par ce qui s'est passé au Sénat, de par le fait que nous avions travaillé au niveau de la commission des affaires culturelles et que ce travail a payé puisqu'il y a eu consensus. Donc ça veut dire qu'il y a eu, je dirais, un vote fort du Sénat. Alors c'est vrai que dans la société médiatisée qu'on connaît, on entend plutôt parler des voix discordantes que des consensus. Alors quand il y a voix discordante, on en parle beaucoup. Là, pour le coup, il y avait consensus. Et ce consensus donne en quelque sorte une responsabilité de plus au gouvernement qui est de se saisir de ce dossier à bras-le-corps comme cela a été fait depuis quelques mois, de manière à aller vers la pédagogie, comme vous le soulignez. Et je pense qu'il serait bienvenu au printemps 2009, au moment où la loi s'appliquera, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation fortes de la part du gouvernement, donc de la part de l'État, mais aussi de la part des professionnels du secteur.
Des fournisseurs d'accès.
Des fournisseurs d'accès, qui ont intérêt, si vous voulez. C'est comme quand on vous livre une voiture neuve, on a intérêt à vous rappeler quand même qu'elle se conduit dans le respect du code de la route et qu'il y a aussi un mode d'emploi. Je crois que trop souvent aujourd'hui, l'accès à Internet s'est fait de façon débridée. Or, il faut que Internet soit un monde merveilleux, mais il ne faut pas que ce soit un monde de non-droit. Il faut que ce soit un monde qui respecte le droit.
Développer l'offre commerciale légale de musique et de films est l'autre volet des accords de l'Élysée. Que proposez-vous pour favoriser ce développement? Est-ce que c'est l'objet de certains de vos amendements?
Oui.
Et que proposez-vous?
Oui, alors vous avez parfaitement raison de le rappeler. C'était un des volets importants des accords de l'Élysée. C'était les deux côtés des accords, donc la proposition de proposer davantage d'offres légales et puis en même temps la mise en place de la riposte graduée. Alors dans le projet de loi, il nous a semblé que n'apparaissait pas suffisamment ce volet proposition. Donc nous l'avons renforcé par le fait, je prends deux exemples concrets, que si vous souhaitez télécharger légalement des œuvres, nous proposons que la DOPI puisse labelliser les sites légaux, de manière à ce que vous soyez sûr, quand vous irez sur un site, que ce site respecte parfaitement le droit d'auteur. Donc tous les fournisseurs d'accès, mais notamment tous les producteurs, tous ceux qui mettent sur Internet des sites de téléchargement, pourront demander à la Haute Autorité un label qui certifiera que ce site respecte le droit d'auteur. Et vous n'aurez pas à vous poser la question. C'est-à-dire que vous irez sur Internet, vous verrez que la Haute Autorité, la DOPI, a labellisé, a certifié que ce site était conforme au droit d'auteur, donc vous pourriez y aller en toute tranquillité. Par ailleurs, un deuxième aspect que nous avons souhaité mettre en avant, c'est que si vous voulez sécuriser vous-même votre accès à Internet, si vous voulez prendre un logiciel qui sécurise votre accès et qui évitera tout piratage, à ce moment-là, nous avons également proposé que la Haute Autorité puisse donner son label aux fabricants de logiciels qui le demanderont, de manière à ce que vous sachiez, vous aussi, consommateur abonné à Internet, que votre logiciel est parfaitement fiable techniquement et qu'il a été approuvé, en quelque sorte, par la Haute Autorité. Donc, deux façons à la fois d'informer et de faciliter la vie de l'internaute qui veut bien se comporter par rapport au monde de la création. Donc, une offre légale labellisée et des accès sécurisés certifiés par la Haute Autorité.
Mais ne faut-il pas encourager les professionnels à développer cette offre légale? Est-ce qu'il y aura un suivi de leurs actions?
Vous avez raison, je dirais que la balle est dans leur camp maintenant, c'est-à-dire, comme on le dit familièrement, c'est à eux de prendre la balle au bon.
À eux de jouer, oui.
À eux de jouer, c'est leur métier. Donc à eux de jouer dans le monde de la musique, ils le font de plus en plus. J'ai constaté qu'il y avait de plus en plus de catalogues mis en ligne sur Internet. Nous avons tous dit avec vigueur qu'ils avaient été un peu lents au démarrage, qu'ils n'ont pas su peut-être réagir suffisamment tôt à ce qui était en train de se passer sur Internet depuis 3 ou 4 ans. Ils le font et, encore une fois, c'est leur intérêt de le faire et nous les y aidons avec la loi. Dans le monde du cinéma, l'impact est plus récent encore parce que le téléchargement d'un film demande plus de temps et c'est vraiment le haut débit qui a facilité le téléchargement du cinéma. Et ça impacte vraiment de façon forte aujourd'hui le monde du cinéma, qui est très inquiet. Alors pour cela, il y a ce qu'on appelle, vous savez, dans le jargon, la chronologie des médias. Il faut que tous les acteurs de la chaîne contribuent à la fabrication d'un film. Un film, c'est très cher. Et si l'on veut réaliser un film, il faut qu'on puisse compter sur tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire d'abord, bien entendu, les aides publiques qu'apporte le Centre national du cinéma, mais ensuite l'exploitation en salle. Quand un film sort et qu'il a beaucoup de recettes en salle, ben ça vient alimenter le budget du film. Ensuite, il a sorti en DVD, et puis vous avez éventuellement la sortie en VOD sur la télévision, et puis la sortie sur les chaînes de télévision. Donc c'est cet ensemble de recettes qui permettent à un film d'être financé, d'être cofinancé. Aujourd'hui, le jour de la sortie en salle, beaucoup de films sont piratés. Et donc, ça détruit la chaîne et ça ne valorise pas ni le DVD dont les ventes s'essoufflent. Ça ne valorise pas la vente à la VOD, donc la vente à la demande. Et ça ne favorise pas, bien entendu, la sortie sur les chaînes de télévision. Donc, il faut que le monde du cinéma se réorganise et reformate, en quelque sorte, la chronologie du cinéma, la chronologie des médias. Alors, Mme Albanel, qui a vu notre empressement au Sénat à aller dans ce sens-là, convoque ces jours-ci les professionnels du cinéma de manière à accélérer leur mutation et à faire en sorte qu'ils s'entendent sur une nouvelle chronologie des médias conforme à ce qui est en train de se passer sur Internet.
Après le vote en première lecture au Sénat, quel est le calendrier prévu pour l'adoption de cette loi? Quand pourra-t-elle rentrer en vigueur? Et est-ce que vous-même et la Commission des affaires culturelles du Sénat continueront à être impliqués dans sa mise en œuvre, dans son application?
Effectivement, l'étape du Sénat était une étape importante, mais ça n'est pas la dernière étape. Vous avez raison de rappeler qu'il y a une autre étape qui est le passage à l'Assemblée. Donc nos collègues députés seront saisis du texte en janvier, selon mes dernières informations. J'espère qu'ils pourront travailler le texte comme on l'a fait, avec les principes qu'on avait nous-mêmes définis, à savoir liberté sur Internet, c'est merveilleux, à condition de préserver les droits de la création. Et ils feront leur travail de parlementaires, et j'espère qu'ils le feront avec autant de rapidité que nous, mais surtout autant de sagesse que nous pour arriver à un texte qui se tienne. Et au bout du compte, nous nous retrouverons, Assemblée et Sénat, de manière à adopter un texte qui soit conforme aux deux assemblées. Et cela se fera à travers une commission mixte paritaire qui se tiendra après l'adoption du projet de loi à l'Assemblée, donc vraisemblablement janvier ou février. Après quoi, la loi sera promulguée et donc elle pourra entrer en vigueur. Et je sais aujourd'hui que les différents acteurs, notamment pour la Haute Autorité, pour les différents partenaires, sont l'arme au pied, c'est-à-dire qu'ils attendent le vote définitif de la loi et qu'ils sont prêts du jour au lendemain à agir, ce qui veut dire que la loi pourrait être efficace, c'est-à-dire qu'elle pourrait être opérationnelle au printemps ou à l'été prochain. Donc ça dépendra un petit peu du vote définitif du texte, mais je pense qu'on ira assez vite. Il faut aller vite parce qu'il y a vraiment urgence. Et là, vous me parliez ensuite de la suite. C'est d'abord des rapports annuels qu'on remettra la Haute Autorité au Parlement, qui nous permettront de voir où l'on en est. C'est ce qu'on pourrait appeler le service après-vente de la loi, voir comment ça se passe. Moi, ça me préoccupe toujours de savoir comment une loi est adoptée. Certaines le sont facilement, d'autres pas. Donc il faut que le service après-vente permette de voir comment ça s'est passé pour qu'on puisse nous-mêmes effectivement éventuellement rectifier le tir ou au contraire, comme vous le disiez tout à l'heure, servir d'exemple au niveau européen. Donc c'est un petit peu en fonction de ça qu'on verra comment se porte la loi. Mais comme je vous disais, il y a urgence et cette urgence, elle est aujourd'hui une urgence économique d'un monde de la création qui souffre beaucoup. La crise n'arrange rien, bien entendu. Donc ce monde de la création souffre beaucoup et il y a urgence donc à ce qu'on rétablisse l'équilibre.
Monsieur le sénateur, merci de nous avoir éclairé sur cette loi importante. Merci d'être
merci
venu
vous
nous
aussi.
Rejoindre à Canal Academy et nous serons heureux de vous accueillir à nouveau pour évoquer ce sujet ou d'autres sujets que pourrait traiter la Commission des affaires culturelles du Sénat. Et donc, nous vous disons à bientôt.
Merci à vous et à bientôt.